Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Depuis plusieurs siècles, l'Église met en garde, et vous l'avez rappelé, Serge Abad Gaillardot, contre la franc-maçonnerie. Pourtant, beaucoup de catholiques s'interrogent, parfois encore, pourquoi l'Église est-elle aussi sévère contre la franc-maçonnerie ? Est-ce seulement une question de doctrine ? Certains parlent de dialogue possible. Que faut-il en penser ? Ce dialogue est-il réellement possible avec cette organisation franc-maçonne, Serge Abad Gaillardot ?
Alors, le dialogue est non seulement possible, mais il est souhaitable.
Il est souhaitable, on commence bien. Voilà, alors ce dialogue s'ouvre dès aujourd'hui, dès maintenant,
et avec vous. Voilà, il ne faut pas oublier...
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, hein, oui, oui. Il ne faut pas oublier que Jésus mangeait avec les publicains, s'asseyait avec les pécheurs, et nous disait que ce n'est pas l'homme bien portant qui a besoin d'un médecin, mais le malade. Alors, je ne veux pas qualifier les francs-maçons de malades, hein, ce n'est pas du tout mon propos. En revanche, il y a des chemins de vérité et des chemins qui conduisent à l'erreur. L'initiation maçonnique est une... Alors, je démontre en particulier en parlant des rituels qui se disent chrétiens, est une tromperie. C'est une tromperie qui participe de la magie, qui participe de l'alchimie, mais qui n'a absolument rien à voir avec la parole de Dieu, même lorsque il s'agit de rituels qui se disent chrétiens, comme le rite écossais rectifié. Alors, premier élément de tromperie, de mémoire, la première déclaration papale mettant en garde les chrétiens contre la franc-maçonnerie, c'est 1738. Et le rite écossais rectifié est né, je crois, en 1785. Donc, on ne peut pas dire que M. Villermoz, qui se disait chrétien, ait pu ignorer cette déclaration papale. Donc, c'est volontaire. Pourquoi c'est volontaire ? Parce que finalement, je parlais dans les précédentes émissions d'une lutte de la franc-maçonnerie contre l'Église. Au 30e ou 32e degré plutôt, 30e et 32e degré du rite écossais ancien et accepté, il y a deux choses qui sont importantes. On explique aux candidats qu'il est temps maintenant de connaître les véritables objectifs de la franc-maçonnerie et ils vont lui être dévoilés à ce moment-là. Ces objectifs, pour les atteindre, eh bien, on explique que le nouveau candidat, en quelque sorte, aura deux moyens à sa disposition, la force et la ruse. Alors la force, c'est la Révolution française, ou même le 19e siècle, où on empêche les prêtres d'enseigner, où on ferme les congrégations religieuses. Et la ruse, eh bien, elle prend différentes formes. Alors, pour les obéissances laïques, cette ruse consiste à dire « Mais si vous êtes chrétien, ça n'est pas grave, puisque nous, nous sommes laïcs, et en cette circonstance, nous accueillons des musulmans, des croyants, des non-croyants, des agnostiques, et donc c'est pas grave, vous êtes chrétien, mais vous pouvez venir chez nous, puisque d'autant plus que les discussions sur la religion sont interdites. » Donc, vous voyez, c'est très neutre par rapport aux gens qui croient. Ça, c'est la première ruse, c'est le premier piège. Et puis, il y a un piège beaucoup plus subtil qui consiste à dire, pour rentrer dans notre obédience, par exemple, obédience déiste ou obédience chrétienne, eh bien, il faut croire en Dieu. Donc, si vous croyez en Dieu, vous êtes chrétien, mais ça tombe très bien, vous pouvez revenir chez nous, puisque ceux qui ne croient pas en Dieu, ils n'y sont pas acceptés. Mais en fait, Dieu des francs-maçons, c'est le grand archiduc de l'univers, c'est Lucifer. Ça n'est pas, et je le démontre, hein, ça n'est pas Dieu Trine. D'ailleurs, on le voit dans mon livre, j'explique que à la Trinité, qui est le fondement de la foi chrétienne, Père, Fils et Esprit Saint, eh bien la franc-maçonnerie oppose le ternaire. Et ce ternaire est fondé sur des éléments alchimiques, mercure, soufre, sel, etc. Donc on voit bien que ce sont deux choses différentes. Deuxièmement, les pièges de la franc-maçonnerie sont constitués comment dire, d'une sorte de, d'influence magique et alchimique des rituels maçonniques qui font que finalement, on perd complètement les repères.
Donc, ça devient la pratique à long terme de ces pratiques, au fond, ésotériques et occultes, conduisent le franc-maçon à un aveuglement qui devient un aveuglement spirituel.
Je l'ai vécu, et j'en témoigne personnellement, mais je voulais vous donner également une citation d'un grand maître. Le grand maître, c'est le principal élément d'une obédience. Qui est une obédience spiritualiste, donc qui pourrait convenir à un chrétien, eh bien, il vous explique « le processus rituel provoque des modifications d'état de conscience ». Donc si ça n'appelle pas à la magie, je ne vois pas ce dont on parle. Parce que lorsque on assiste à l'Eucharistie, lorsque l'on prend la communion, on a peut-être des états particulier sur le plan de la spiritualité, mais pas de la conscience. C'est-à-dire que, vous savez, c'est une séduction du démon que de modifier la conscience des gens. C'est-à-dire qu'ils perdent le raisonnement. Lorsque vous passez 10, 20, 30 ans dans une loge maçonnique et qu'on vous explique, par exemple, alors avec des éléments complètement inverses à ceux de la, je dirais, de la foi chrétienne, que l'hiver, ça n'est pas le symbole de la mort, mais c'est le symbole de la vie, parce que la franc-maçonnerie considère que la vie, elle est dans le secret. Eh bien, vous finissez par croire à tout cela, et forcément, vous perdez vos repères. Et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que le dialogue est souhaitable, parce que Saint François d'Assise nous parlait de ce qu'on appelle, enfin, de ce qu'il appelait plutôt la correction fraternelle, c'est-à-dire qu'on corrige le chemin qui est en train de prendre un frère, et les francs-maçons sont nos frères devant Dieu, ce ne sont pas des démons en quelque sorte, hein. Eh bien, cette correction fraternelle, c'est d'expliquer à un franc-maçon où est la vraie lumière. Parce que la lumière de la franc-maçonnerie, celle qu'on voit à l'initiation, c'est la lumière de Lucifer. Et j'explique souvent dans mes conférences que j'ai vécu les deux, hein. J'ai vécu la vision de la lumière maçonnique, et j'ai vécu également la lumière de la foi. Eh bien, la lumière maçonnique par rapport à la lumière de la foi, c'est une petite ampoule par rapport à une explosion nucléaire. Ça n'a absolument rien à voir. Et je dis souvent, et je m'adresse aux francs-maçons, je souhaite qu'ils puissent se rendre un jour à une adoration eucharistique pour savoir ce qui se passera entre le dialogue qu'ils auront avec le Christ et ce que le Christ leur dira à leur cœur. Mais pour cela, il faut qu'ils ouvrent leur cœur. Alors bien entendu, le dialogue est souhaitable, mais encore faut-il être entendu par les francs-maçons.
Vous avez parlé de fraternité, on parle beaucoup de fraternité, hein. Et même l'Évangile nous invite à vivre ensemble en frères, et ô combien qu'il est bon de goûter aussi à cette fraternité quand on est chrétien. Alors qu'est-ce qui distingue, permettez-moi, la fraternité chez les francs-maçons et au fond la fraternité auquel les chrétiens sont appelés à vivre dans cette vie fraternelle.
Je vais répondre par je vais faire une réponse je dirais en deux branches. La première, c'est une expérience personnelle, et la deuxième, elle sera un peu plus, théologique.
En deux minutes.
Voilà. La première, c'est que j'ai été haut fonctionnaire, et je peux vous dire que tant que j'étais, entre guillemets, proche des puissants, j'avais beaucoup de frères et de sœurs. C'est-à-dire qu'on me demandait beaucoup de services. Mais le jour où il s'est trouvé que j'ai dénoncé des marchés publics truqués dans lesquels étaient trempés des francs-maçons et des politiques francs-maçons également, bien là, je peux vous dire que mes frères et mes sœurs se sont mis du bon côté du manche, c'est-à-dire celui où on prend pas de coups. Ça, c'est mon expérience personnelle. Donc c'est une fraternité de pacotille. Deuxièmement, la fraternité, ça signifie avant tout qu'on a le même père. Je suis désolé, mais je ne suis pas le fils de Lucifer. C'est-à-dire que les francs-maçons sont fils de Dieu également, mais encore faut-il qu'ils le sachent et qu'ils admettent cette paternité. Tant qu'ils ne comprendront pas que la dimension de la divinité à laquelle ils croient est une dimension erronée, eh bien, ils ne pourront pas se dire les frères des chrétiens. Nous pouvons leur dire qu'ils sont fils de Dieu, parce que nous savons que Dieu nous a tous créés. Il nous a créés libres, il nous a créés par amour. Mais eux, encore faut-il qu'ils le sachent.
Et si je vous demandais, pour terminer cette série, Serge Abad Gaillardou, de résumer le message principal, en fait, de cet ouvrage, La franc-maçonnerie chrétienne, une imposture.
Eh bien, le message principal, c'est que je cite d'ailleurs dans le livre un extrait d'une obédience maçonnique qui nous dit, et c'est encore une tromperie, que les rituels maçonniques, entre guillemets chrétiens, rapprochent et permettent de se rapprocher de l'Église. Moi, je dis que c'est tout le contraire et que c'est une imposture et que je ne vois pas ce que l'on va chercher en loge que l'on ne puisse pas trouver, je dirais, avec une puissance sans, dans l'Église. Le message du Christ est bien plus puissant que le message d'Hiram.
Et c'est ainsi que nous terminons cet entretien et puis cette série. Merci infiniment de votre passage sur nos radios chrétiennes pour cette émission des clés pour vivre, des clés aussi pour devenir lecteur, chers auditeurs, avec ce livre paru il y a quelques mois chez Arthège, La franc-maçonnerie chrétienne, une imposture. Merci à vous.
Merci.
Au revoir.